Jésus dit « En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. »
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
When he told you you're not worthy, when he told you you're not loved, when he told you you're not beautiful, you'll never be enough.
Looks into my eyes, takes me to Whitney Houston, How Will I Know sur Phare FM 4h08, la radio autrement avec vous dans la nuit autrement ce vendredi 1er août. Bienvenue si vous venez de me rejoindre. Je vous souhaite un bon réveil, une excellente journée. Votre programme Pain de vie avec Claude Gréder tout à l'heure et puis les langages de l'amour un peu plus tard et tout de suite de la musique. Très belle chanson de Claude, C'est la vie.
Minuit 5h.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I remember la mélodie. C'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around, que sera, oui, sera. Me voici, me voilà, chanter. Un, deux, trois, c'est sometimes in love, sometimes miserable. And I still hear my mama's voice inside of me. La mélodie, la mélodie. C'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around it around. Que sera, oui, sera. Me voici, me voilà chanter. Un, deux, trois, c'est c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around, que sera, oui, sera. Écoute-moi, oh maman, chanter. Un, deux, trois, c'est la vie.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Claude Gréder.
Aujourd'hui, dans toute la France et depuis une semaine déjà dans le monde entier, eh bien, toute l'Église du monde libre se souvient qu'il y a dans le monde des hommes et des femmes comme vous et moi, faits de chair et de sang, qui pour le nom de Christ souffrent. C'est le dimanche de l'Église persécutée. Alors, rassurez-vous, je vais pas vous prêcher un machin déprimant, mais nous allons quand même parler un peu de choses qui sont un petit peu, je dirais, délicates et je voudrais nous inviter à ce matin à nous ouvrir notre cœur à celles et ceux qui, de près ou de loin, parfois de très près aussi, je ne sais pas si sur Internet, mais de certaines personnes qui nous suivent et qui nous suivent en secret parce qu'ils ne pourraient pas venir dans une église. Je voudrais qu'on puisse penser ce matin à eux et en pensant à eux, vous allez voir, on va retourner chez nous. Voilà, on pourrait lire ensemble un texte tiré de l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 10. Au chapitre 10, c'est les versets 32 à 34 inclus. Ces deux versets sont, trois versets sont dans un passage où l'apôtre, où les, enfin, le rédacteur, l'auteur de la lettre aux Hébreux, disait, hé les gars, arrêtez de jouer avec votre salut. Arrêtez de jouer avec le péché. Arrêtez parce que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 32, il dit, mais souvenez-vous, mais rappelez-vous donc, souvenez-vous Dans les premiers temps, après votre conversion, à peine aviez-vous été éclairé de la lumière de Dieu que vous avez eu à beaucoup souffrir. Mais vous avez tenu bon. Tantôt, on vous a publiquement injurié et tourné en dérision. Vous avez eu à subir des persécutions et de mauvais traitements. Tantôt, vous étiez prêt à soutenir ceux qui étaient traités ainsi et vous avez pris moralement part à leurs souffrances. Oui, vous avez témoigné votre sympathie, verset 34, aux prisonniers et vous avez accepté dans la joie d'être dépouillé de vos biens, car vous saviez que vous possédez ailleurs des richesses plus précieuse que nul ne pourra vous ravir. N'abandonnez donc pas cette ferme assurance à laquelle est promise une si grande récompense. Souvenez-vous, rappelez-vous les temps difficiles du départ. Parmi nous, certains ont aussi connu des temps difficiles dans le démarrage de la foi chrétienne. Ma famille, moi-même, quand on s'est converti dans le village, plus personne ne nous parlait. On changeait de trottoir. Quand on arrivait aux fêtes communales, on nous ignorait, on tournait le dos gentiment. Peut-être que ça vous est arrivé aussi. D'autres ont subi des coups et blessures, y compris ici, dans l'église, en France. Ça n'a pas toujours été aussi sympathique ici. Et on se souvient qu'il y a eu des familles qui ont vraiment souffert, y compris dans l'église d'ici. Le fait de prendre la direction du chemin avec Jésus leur a provoqué dans leur famille des retours de bâton incroyables. Mais ce matin, je voudrais nous rappeler que ça a toujours existé dans le cadre, au temps de la réforme au XVIe siècle en France, eh bien, il y avait une belle progression de l'évangile. Mais très vite, l'autorité publique s'est opposée. On se rappelle du bon roi Louis XIV, qui n'était pas si bon que ça et pas si gentil que ça. Le roi Soleil, qu'on admire de partout, allait convertir de force de nouveau les protestants au catholicisme. Et ils ont eu tous les droits. Ils s'installaient dans les maisons et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils mangeaient l'argent, ils mangeaient le pain des gens, etc. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient liberté absolue, d'une cruauté absolue aussi. C'est arrivé en France et des centaines et des milliers de gens ont souffert de cela. Et ça a provoqué aussi un exil et un exode de la force vive du pays. Parce que les protestants, au moment où nous sommes aujourd'hui, nous avons une éthique du travail, n'est-ce pas ? Nous travaillons. Et ces gens-là sont partis, avec le départ, dans des pays refuges comme l'Allemagne, le pays des Pays-Bas, l'Angleterre, voire l'Afrique du Sud. Eh bien, ils ont emmené avec eux toute la richesse et tout le savoir-faire, et ça a appauvri le pays. Et là, le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, parle à une église, à une communauté d'origine juive. On pense que c'était celle de Rome, et si c'était celle de Rome, elle a dû subir la persécution de l'an 49, où ils ont, selon l'empereur Claudius, dû sortir de la ville illico presto. Tous les chrétiens et tous les juifs ont dû sortir en laissant tous leurs biens, d'un instant à l'autre. Souvenez-vous de ces premiers jours, dira la version Louis II. J'ai pris une autre avant. Souvenez-vous de ces premiers jours. Te souviens-tu peut-être de ce que tu as souffert lorsque tu t'es donné à Jésus ? Te souviens-tu un instant ? Ça devrait nous faire réfléchir et nous rappeler et nous faire tenir bon aujourd'hui quand tout va bien. Je me souviens de ce jour-là. Je me souviens des jours suivants lorsque les parents revenaient nous voir le dimanche suivant et qu'ils nous disaient, les enfants à l'école étaient pointés du doigt, tes parents font partie de la secte. On se souvient de ça encore ? La persécution se souvient toujours au premier jour de la conversion, au premier jour d'une église. Voyez-vous, lorsque l'esprit de Jésus arrive, il y a l'esprit de Satan qui s'oppose. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'esprit de Satan s'est manifesté au travers de Hérode, qui va déployer une armée pour essayer de tuer un petit bébé. Pourquoi une telle opposition ? Pour la bonne et simple raison que le nouveau converti quitte la croyance de la majorité. Et l'opposition est particulièrement féroce lorsque nous faisons le choix de suivre Christ. Ce n'est pas incompatible. Oui, je crois à ce Dieu qui bénit chacun et chacune. Mais je crois aussi, et la parole de Dieu nous en parle, et l'histoire nous apprend que là où l'Église progresse, il y a aussi des oppositions, voire des persécutions. Aujourd'hui encore, ça se passe. En Inde, les chrétiens subissent la persécution en partie parce qu'ils sont nombreux à quitter l'hindouisme. pour venir à Christ. Souvent, ces nouveaux chrétiens viennent des mondes, des minorités tribales, des castes dites, c'est les intouchables. Et pour les obliger à se reconvertir à l'hindouisme, on organise ce qu'on appelle des campagnes retour à la maison. Les hindous entrent en force dans les villages et usent de violence et de menaces, obligeant le nouveau converti à revenir à l'hindouisme. Dans le monde musulman, ceux qui sont le plus persécutés ne sont pas les membres des églises traditionnelles, mais les convertis. On dit de l'Iran actuellement que c'est l'église là-bas qui grandit le plus vite au monde. Vous voyez ce que je veux dire ? D'un côté, on n'avait que la photographie de l'islam qui progresse, mais en fait, c'est l'islam qui en fait, se sent agressé. Parce que dans son sein, il y a des églises chrétiennes qui progressent. Nicolas Ballon a fait plusieurs voyages de contrebande entre la Suisse et la France à l'époque pour passer des Bibles. Il a été arrêté et tué à Poitiers en 1556. Alors pourquoi est-il important de se souvenir de cette persécution-là ? Parce que voyez-vous, la Bible dit, l'apôtre Paul le dit en toute simplicité, il dit à Timothée de souffrir avec lui. Et il lui dit, en règle générale, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. N'imaginons pas que nous allons toujours passer au travers des mailles du filet. Il y a des jours où ça va nous concerner. Il y a des jours où j'ai vu des gens que j'aimais profondément se dresser contre moi. Notamment une personne qui m'a accablé à cause de ma foi. Il a fallu tenir bon. Il fallait tenir bon. Tenir bon. Tenir bon, et je vous encourage à tenir bon. Et si aujourd'hui votre famille est contre vous, si aujourd'hui vos proches sont contre vous, si aujourd'hui ils sont contre vous, continuez à les aimer. Continuez à les prier pour eux. Continuez à les élever devant le trône de Dieu. Continuez à leur faire du bien. Ne les maudissez pas. Soyez bons à leur égard. Continuez à les visiter. Priez pour eux. Qui sait, peut-être demain est le jour où Jésus les visitera dans sa grâce et où il les sauvera à leur tour. Deuxième grand point, vous avez soutenu un grand combat. Hébreux 10, verset 32. Hébreux 10, 32. Vous avez soutenu un grand combat. Évidemment, ce n'était pas un combat de gladiateurs, hein. Mais c'était un combat dans la foi, de savoir résister, de surmonter les obstacles et de surmonter la persécution qui peut avoir plusieurs formes. Je vois au moins quatre. La première des formes, c'est l'attaque publique, l'accusation mensongère et des diffamations. Persécutés, ils étaient pointés du doigt par le voisinage. C'est la première des formes de persécution. Un rejet social majeur. Tout à coup, vous devenez un paria. On ne vous connaît plus. Vous vous sentez mauvais. On vous croise avec d'autres que vous croisiez avant tous les jours, qui vous aviez une relation sympathique. Tout à coup, c'est comme un mur de verre. On vous voit, mais de loin. Une jeune femme en Indonésie, récemment, a choisi de suivre Jésus. Lorsqu'on en a parlé à ses parents, ils l'ont chassée de la maison. Ils l'ont chassée de la maison, et c'est les parents qui ont fait courir le bruit qu'ils l'ont chassée parce qu'elle se serait prostituée. On a vécu des choses similaires ici, hein. C'est la diffamation. C'est l'attaque mensongère publique. C'est l'accusation mensongère. Une deuxième forme de persécution, c'est l'enlèvement de nos biens. L'enlèvement de nos biens, c'est marqué ici. Et vous avez en effet eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté, remarquez ce qui est marqué là, avec joie, l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. Récemment, en Iran, le gouvernement pratique une politique d'appauvrissement des chrétiens. Ils sont emprisonnés. Et pour les relâcher, il faut payer une caution, c'est-à-dire une somme d'argent qui est posée en dépôt. Mais pour cette somme d'argent, cette somme d'argent, généralement, elle est exorbitante. On ruine les gens. Les familles se ruinent pour des dizaines de milliers d'euros et l'État s'enrichit avec cet argent-là, avec l'argent des chrétiens. En Irak, chrétiens ont été chassés de leur village en 2014. En quelques heures, ils ont dû fuir devant l'État islamique. Ils ont perdu toutes leurs possessions, leur maison, leur bien personnel, ferme, atelier, outils de travail, etc. Un chrétien d'Irak raconte ceci, je vous le lis. Un combattant de l'État islamique m'a dit qu'il n'y avait pas de place dans la vallée de Ninive pour les infidèles et que nous devions déguerpir immédiatement. Avant de nous faire monter en direct dans le bus en direction du Kurdistan, les djihadistes nous ont pris notre argent, nos bijoux et tous nos objets de valeur. Je n'avais plus que les vêtements que je portais et des sandales aux pieds. Une troisième façon de persécuter les gens, la discrimination économique. Ça commence à l'école, chez les enfants. On refuse de donner des bonnes notes aux enfants de chrétiens. On place les enfants et les familles chrétiennes au fond de la salle de classe. Et au village, les commerçants pratiquent des prix plus élevés pour les chrétiens que pour les autres. Et enfin, une dernière façon de pratiquer la persécution, c'est le sacrifice de la vie. Alors on pense à ces grandes figures, n'est-ce pas ? Ces hommes et ces femmes qui ont laissé leur vie autrefois au XVIe siècle, au XVIIe siècle, etc. C'était loin, c'est loin de chez nous, loin de notre espace, notre temps à nous. On se dit, ouais, c'était une période sombre. Et à l'époque, on faisait des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça a changé. Le cœur de l'humain n'a pas changé. En mai 2017, en Égypte, un groupe de chrétiens égyptiens, des Coptes, ont voulu aller à un monastère. Les djihadistes les ont arrêtés, ils ont fait descendre et leur ont demandé d'abjurer la foi chrétienne. 29 hommes, femmes et enfants. Aucun n'a abjuré. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant. Ils les ont abattus l'un après l'autre. En mai 2017. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous savez, lorsque Calvin a dû fuir, enfin fuir, il s'est établi à Bâle, puis à Genève, passant d'abord par Strasbourg. Et à Genève, il a vraiment fait un boulot de fond. Il a aussi créé une école biblique pour pasteurs. Et les communautés huguenotes envoyaient des jeunes hommes. Devinez combien, quelle était la durée de vie moyenne d'un jeune pasteur qui rentrait en France pour annoncer l'évangile et prendre soin des communautés huguenotes. 3 semaines. Nous avons aujourd'hui le privilège de lire la Bible. Nous y avons accès de partout. Nous l'avons sous toutes ses formes, en version papier, version électronique, en grosse version, version commentée, tout ce que vous voulez. Mais derrière cette liberté que nous avons aujourd'hui, il y a des dizaines et des centaines d'hommes et de femmes qui ont laissé leur peau, y compris en France. C'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas ouvrir avec respect ce précieux trésor et l'ouvrir aussi souvent que possible, si possible tous les jours. J'aimerais lire avec vous les versets que j'ai lus au début. Souvenez-vous de ces premiers jours, verset 32, « Après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations de l'autre. » Voyez-vous, je pense que l'Église, dans ce verset-là, il y a 2 éléments. Il y a l'élément tribulation, souffrance, persécution, et l'élément vous associant à ceux dont la position était la même, l'élément solidarité. Je pense que l'Église de tout temps était tantôt persécutée et était dans la souffrance, dans la difficulté, mais était aussi dans un autre coin du même pays, voire de la frontière, il y avait une autre église, la même église en Jésus-Christ, mais qui se sentait solidaire, pour aider l'église souffrante. Et je pense que de tout temps, soit on est dans la persécution, on vit de l'opposition, soit on est appelé à être solidaire de celles et ceux qui traversent cette opposition ou cette souffrance. L'église est à la fois souffrante et solidaire avec les chrétiens persécutés dans le monde antique. Dans Hébreux 13, verset 3, il est dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous aussi étiez prisonniers. » Je ne sais pas si vous savez, mais dans ce petit pays qui est coincé entre l'Éthiopie et Djibouti, un pays appelé Érythrée, on a enfermé des chrétiens. Ils sont encore enfermés par centaines dans des conteneurs de camions. Vous savez, les conteneurs qu'on voit sur l'autoroute, sur les 38 tonnes, on les enferme là-dedans. Imaginez la vie là-dedans, sous le soleil. Ils y étouffent, ils y meurent de soif, de faim, aujourd'hui, pendant que je vous cause. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps physique. À l'époque, les prisonniers pouvaient mourir de faim, à moins que leurs amis ne leur apportent de la nourriture. Mais s'identifier à eux, leur apporter à manger, mettait en péril ceux qui faisaient ce geste de solidarité. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 2, verset 25, nous cite un chrétien, nom de Épaphrodite. Paul était à l'époque de la rédaction de l'épître aux Philippiens, était à Rome en prison. Et l'église de Philippe, qui est dans l'actuelle Macédoine, au-dessus de la Grèce, une des premières églises européennes, a eu entendu dire que Paul était en prison. Et du coup, ils ont rassemblé des dons et ils ont chargé Épaphrodite pour apporter ses dons à Rome dans la prison de Paul, pour que Paul ait de quoi manger, puisse s'acheter à manger, puisse s'acheter des vêtements. Et Paul l'écrit aux Philippiens, vous avez bien fait de le faire. Votre don est comme un parfum de bonne odeur qui m'arrive. D'ailleurs, Épaphrodite a pris beaucoup de risques et maintenant il est malade, il a failli mourir. Il y avait l'église d'un côté souffrante, à Rome, et puis l'église qui allait bien à ce moment-là, à Philippe, qui se sentait solidaire de l'église souffrante. Je ne sais pas si vous savez, mais on parle de Marie Durand, cette dame qui a passé 38 ans en prison. Elle est sortie, je crois, à 57 ans. Elle a encore vécu 8 ans. Mais elle et toutes les copines huguenotes qui avaient été enfermées avec elle dépendaient de ceci, dépendaient des dons qu'on collectait à l'étranger pour qu'elles puissent s'acheter à manger et de quoi se vêtir. À l'époque, on pouvait mourir de faim en prison, en France. On a quand même eu affaire à une forte opposition des religions traditionnelles, chrétiennes. Franchement, c'était pas toujours sympa. Et si aujourd'hui, des fois, on nous laisse faire un culte d'enterrement dans une église traditionnelle, mais c'est incroyable, les évolutions en 15-16 ans. Mais je me rappelle des périodes difficiles. Je ne voudrais pas oublier celles et ceux qui, de l'âge de Jean, certains sont déjà partis dans le ciel, ils ont payé un prix élevé, en termes de rejet, en termes de regard négatif, en termes de développement de préjugés à l'égard de la communauté évangélique. Des communautés évangéliques. On n'est pas la seule communauté qui a souffert de cela. Mais ça valait le coup. Regardez voir ce qui s'est passé. Ça valait le coup. Papa Jean, ça valait le coup. Toute la génération de frères qui sont dans l'église, ça valait le coup. Les Hutards et Papa Maman et d'autres qui étaient là. Alors comment pouvons-nous nous identifier aux chrétiens persécutés? Différents moyens d'agir. Pour se souvenir, il faut tout d'abord savoir. J'aimerais qu'on projette cette carte. La carte que vous voyez là, cette carte de la gravité de la persécution dans le monde. Elle est établie par Portes Ouvertes. Et voyez le numéro 1, Corée du Nord, qui est l'État au monde qui est le plus opposé aux chrétiens. Là-bas, il n'y a pas d'église. Vous êtes clandestin. Ici, il y a une église, elle est contrôlée. Voilà, c'est tout. Des fois, nous partons en vacances à des lieux idylliques, comme les Maldives. Mais aux Maldives, il est interdit d'avoir une Bible. Alors quand on va aux Maldives, des fois je me dis quand même, on amène l'argent à un endroit où on s'oppose aux chrétiens. Regardez voir l'Afrique du Nord, regardez voir le Moyen-Orient. Mais dans ces pays-là, malgré l'opposition, il y a aussi une église grandie et qui avance malgré tout, qui progresse. L'Égypte est un pays où les chrétiens continuent de progresser. Je ne sais plus, Christian, il y avait un culte, il y avait combien de milliers de personnes ensemble? 30 000 personnes? 30 000 chrétiens ensemble qui ont chanté à la gloire de Dieu en Égypte. Waouh! Dans l'Apocalypse, on voit deux êtres symboliques faire la guerre aux saints, faire la guerre aux chrétiens. D'une part la bête ou le dragon. Et puis il y a dans Apocalypse 17, versets 3 à 6, cette fameuse prostituée, cette femme belle qui attire. Je voudrais terminer là-dessus en disant, l'Église n'a jamais autant grandi qu'actuellement dans le monde entier. Même en France. On était 50 000 évangéliques à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est 600 000 aujourd'hui. Mais jamais dans le monde entier, l'Église n'a été aussi en croissance. Même aux États-Unis, figurez-vous. Elle reprend du poil de la bête, elle progresse, elle avance. Et si des fois l'islam se montre féroce comme une bête, c'est parce que généralement dans son sein, il y a des églises qui progressent. Mais ça, on ne le dit nulle part. Tout ça pour dire quoi? Quand l'évangile progresse, le diable enrage. Mais ne nous laissons pas effrayer, ni par la bête, ni par la prostituée. Parce que si les chrétiens de l'Est ou du Sud ou dans des pays comme la Corée du Nord subissent les foudres de la bête, les chrétiens de l'Ouest subissent la séduction de la prostituée. Et ses griffes ne sont pas moins acérées que celles de la bête. J'ai écouté un pasteur de l'Allemagne de l'Est prêcher il y a une vingtaine d'années de cela, après la chute du mur de Berlin. Et il disait, quand on était en Allemagne de l'Est, on était tellement surveillé par les Stasi et on était persécuté. Et des fois j'ai pris des coups. Mais toute ma famille était bouillante pour Jésus. Cette opposition a travaillé en nous le côté bouillant pour le Seigneur. Et quand le mur est tombé et qu'on a émigré à l'Ouest, il a dit, j'ai failli perdre mes fils dans le monde parce que leur foi a été attaquée par la belle prostituée. Par le monde. Qui nous fait passer notre temps devant d'autres choses, la télévision, l'internet et tout ce que vous voulez. On n'est pas moins en danger à l'Ouest qu'à l'Est. Le danger change de visage. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours, y compris à l'Ouest, parce que le danger qui nous guette, c'est que ça va bien, c'est confortable. Puis je te pose une question, ou il me pose en même temps une question à moi. L'Évangile t'a coûté quoi cette semaine? Qu'est-ce que l'Évangile t'a coûté cette semaine? En temps, en énergie. Frères et sœurs, on peut se souvenir de la férocité des luttes au début de la marche chrétienne, et comme les Hébreux tout à coup s'endormirent et recommençaient à pécher. Et là, il dit, arrêtez, faites gaffe les gars, parce que si maintenant vous recommencez à pécher, il y a pour vous plus de sacrifice qui est disponible. Tout ce qui nous attend, c'est le terrible jugement de Dieu. C'est pourquoi, souvenez-vous des premiers jours où vous avez lutté pour votre foi. Restez ferme jusqu'au bout, restez ferme jusqu'au bout. Pourquoi une telle férocité du diable? Il y a à peu près 500 ans, il y a un certain monsieur Wycliffe, en Angleterre, avait découvert la Bible. Et il était convaincu de son autorité universelle, était convaincu aussi de la véracité. Et il a commencé à faire des traités autour de lui. Et puis les gens se sont emballés pour l'évangile et ça a fait beaucoup de bruit en Angleterre. Mais au-delà de l'Angleterre, jusqu'en Tchéquie. Et alors, il y a ceux qui étaient pour lui et ceux qui étaient contre lui. Et beaucoup étaient contre lui. Alors il a eu la bonne idée de mourir avant qu'il le mette sur le bûcher. Finalement, il était mort et enterré. Ils l'ont déterré, ils l'ont brûlé, ils se passaient les cendres. Mais avant qu'il ne meure, il y avait des gens de Tchéquie qui étaient venus chez lui, qui ont entendu le message de l'évangile, et ils l'ont ramené en Tchéquie. Et là-bas, un prêtre du nom Jan Hus, il s'est emballé pour ça, et puis il a commencé à prêcher l'évangile, convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, que le salut est gratuit. Et évidemment, tout le monde n'était pas content avec lui, alors ils l'ont emprisonné, ils l'ont torturé, ils l'ont mis au bûcher, ils l'ont allumé. 100 ans plus tard, arrive Martin Luther sous le radar. Un prêtre allemand, enfin c'était un allemand. Et puis un jeune allemand qui aussi avait vécu un moment dramatique pendant le mois de juillet. La foudre était tombée à côté de lui, persuadé que Dieu l'avait préservé de sa vie. Il a voulu devenir moine, il allait au monastère. Et là, pour être en paix avec Dieu, il faisait ce qu'il faisait à l'époque. Il faisait des châtiments et des pénitences. Des nuits entières, il se flagellait pour avoir la paix avec Dieu. Et comme il ne l'avait pas, alors il allait se confesser jusqu'à 6 heures par jour d'affilée. Se confesser, quand il avait fini, il retournait se confesser, pensant avoir oublié des péchés. Et il est devenu fou. Mais comme il était sérieux et bon et intellectuellement, un gars intelligent, et comme il voulait devenir prêtre, figurez-vous que les professeurs lui donnaient une Bible entre les mains. n'aurait jamais dû faire ça. Il a commencé à lire la Bible avec avidité. Et un soir, une nuit, alors qu'il se lamentait encore devant Dieu, il étudiait l'épître aux Romains. Et il tombe sur Romains, chapitre 3, verset 21, qui dit la chose suivante, verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et le mot « gratuitement », il s'est dit, « Si c'est gratuit, c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est pas payant. Si c'est gratuit, c'est pas la peine de se flageller. Si c'est gratuit, c'est pas la peine de faire pénitence. On confesse ses péchés, on demande pardon, et Dieu donne et fait miséricorde. » Il a compris tout ça. Et tout à coup, il s'est emballé pour le message de l'évangile. Il voulait jamais réformer l'église, mais il voulait juste que ça aille mieux, parce qu'il y avait à l'époque toutes des indulgences, il fallait payer pour aller au ciel, il fallait aller à Rome pour aller au ciel, enfin bref. Il a dit stop. Et le 31 octobre 1517, il a affiché ses 95 thèses sur la porte de la cathédrale de Wittenberg. Et ça a mis le feu aux poudres. Mais il avait trouvé la vérité, la lumière de l'évangile. C'est gratuit d'être sauvé. Alors lui, il a échappé au bûcher, hein, mais pas d'autres. Mais c'est à cause de ce message-là que des hommes et des femmes étaient prêts à donner leur vie. À cause de ce message dans cette Bible-là. Avez-vous déjà lu Romains 3, 21? Vous devriez. C'est intéressant, vous allez voir. En tout cas, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, on bénéficie de ce message et de la liberté et de l'église locale à cause d'hommes et de femmes qui nous ont précédés et qui ont prié un prix incroyablement élevé pour nous amener la lumière de l'évangile. Le message d'un Dieu qui nous aime inconditionnellement. Alléluia! On est aimé, point barre, t'es aimé, c'est comme ça. Tu peux rien, mais Dieu t'aime quand même. Churchill disait, un ami, c'est quelqu'un qui connaît tout de vous et qui vous aime quand même. C'est comme ça que Dieu t'aime. Il sait tout de toi. Et malgré toi, il t'aime. Hey, quel beau message de l'évangile. Il est impossible d'acheter le salut. Il est impossible de mériter. On ne peut que le recevoir. C'est ça le message de la réforme. On ne peut que le recevoir. Sinon, jamais reçu. Aujourd'hui est jour de salut. Aujourd'hui est jour de salut. Aujourd'hui est jour de gloire. Et je voudrais que vous puissiez rentrer à la maison, non pas découragé, mais encouragé. Il dit, hey, je suis porteur du meilleur message au monde. Un message qui libère de la culpabilité, du poids de la peur, de la peur de la mort, de la peur de la vie, du peur de la mort. Parce que Dieu se met tous les jours à notre côté jusqu'à la fin du monde. Amen.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
5 heures moins d'un passé sur Phare FM, la radio autrement avec vous dans la nuit autrement. Et on poursuit en musique, Serge Schlüter, Love Me Still. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon réveil et une excellente journée.
I once believed that your love had conditions, that it could be taken away just as fast as it's given. I thought there were strings attached, but you show me kindness in spite of my history. When others walked out, it was you who was still standing with me. And I can't wrap my head around that. When I've been the rebel who's run from your arms, I've turned my back and I've broken your heart. But you love me still, and you always will. I've known the truth and still chosen a lie, giving you less when I promised my life. But you love me still, you love me still, and I know you always will. I can't believe after all that I've messed up, you take my hand and you tell me you're not gonna give up. Cause you won't stop fighting for me. Oh, despite all my faults, you're not scared away. For better or worse, I know that you'll stay. When I've been the rebel who's run from my back in a broken heart, but you love me still, and you always will. Oh, and I've known the truth.
Dimanche avec toi sur Phare FM. Eh bien, moi, je serai avec vous aussi dimanche, déjà samedi, et puis cette nuit. J'espère que vous vous portez bien. Il est 4h49 et je suis ravie de vous accompagner encore pendant les 10 prochaines minutes dans la nuit. Autrement, je vous souhaite un bon réveil, une excellente journée. On poursuit avec les langages de l'amour, votre prochain rendez-vous tout à l'heure. Et avant cela, on écoute Upsilon avec Astrid James et la chanson Believe.
Do you believe in life after love? No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. So sad that you're leaving.
langage de l'amour.
La plupart d'entre nous avons tendance à sous-estimer ou surestimer notre propre valeur. Soit nous nous percevons comme une personne sans grande réussite, soit comme un cadeau du ciel pour le monde. La façon dont vous vous percevez a une grande influence sur vos relations. Un sentiment d'infériorité remonte souvent à l'enfance quand les parents vous traitaient de stupide, de moche ou encore de maladroit. Comment vaincre ce sentiment d'infériorité ? Regardez la vérité en face. Quelle est-elle ? Vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous êtes doté d'une raison. Vous êtes doté d'émotions et de la capacité de prendre des décisions. Dieu vous a donné des aptitudes particulières. Vous pouvez jouer un rôle unique dans son royaume. Personne d'autre ne peut prendre votre place. Dites-vous la vérité, puis adoptez le comportement qui convient. Vous verrez alors vos relations s'épanouir.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago, en partenariat avec Phare FM.
De mis sueños, el guardián de mis momentos, tu silencio y el estruendo, poderoso y siempre tierno, mi refugio y mi desierto, mi calor y tú en el hielo, tú en el agua y en el fuego, en el niño y el abuelo, en la letra de mis versos, mi creador y tú mi dueño. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo. Y aunque pase el tiempo, me veo y te veo. Tú, en el desván de mis recuerdos, el futuro de mis sueños, en el alba y en el cielo, en el alma y en el cuerpo, en la brisa de los campos, en la fuerza del obrero, tú en el fruto del trabajo, en la patria de mis sueños. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento, y es que no te veo y a la vez te veo, es que no te siento, pero estás tan dentro. Presencia cuando el sol se oculta y la luna llega, te veo al mirarme en aquel espejo, aunque pase el tiempo me veo y te veo. Siento que estás aquí adentro, que estás aquí adentro. No puedo escaparme ni un solo instante de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega, te veo al mirarme en aquel espejo. Y aunque pase el tiempo me veo y te veo.
C'était Alex Campos sur Phare FM, Miveo ITVO. Et l'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vais vous laisser dans quelques minutes avec Bonjour chez vous et puis avec Soane à partir de 5h30 dans Cocorico. Pour ma part, je reviens cette nuit à minuit et je vous laisse maintenant avec Open, Entendez-moi. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon vendredi. Merci de rester avec Phare FM, à très bientôt.
Je n'ai pas les mots pour changer l'avenir, non pas les mots pour éviter le pire, seulement mes mains pour bâtir ou détruire. Je n'ai pas le nom de ceux qui font l'histoire, je n'ai gagné que de petites victoires, sans prétention, sans marquer les mémoires. Un petit pas de plus, un petit peu d'espérance en plus, un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi. Tenir tes larmes, non pas les mots, pour apaiser ton âme et pardonner, déposer les armes.
Mais on sent mon air gravi, le sommet des montagnes. On a construit des palais, les plus belles cathédrales, et on va vivre à en crever comme des bandits en cavale.
Un petit pas de plus, un petit peu d'espérance en plus. Un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi,
un petit peu d'espérance en plus, un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entends.